Soutien sur écoute est une série du Centre national des arts plastiques qui donne la parole à des artistes et propose une immersion au sein de la création contemporaine. Comment naît une œuvre? Quelles sont les étapes de son écriture? Driss Haroussi évoque son dernier film, soutenu par le CNAP, sa pratique et son travail de création.
J'avais envie de travailler en fait sur la caméra obscura en lien avec une personnalité, un savant de la période médiévale arabe qui s'appelle Ibn Hatem, qui a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Manazil. C'est un bouquin qui a été beaucoup utilisé pendant la Renaissance par les peintres italiens. Et en fait, il parlait du procédé de la caméra obscura qui permettait, dans un petit espace avec un tout petit trou, de voir en fait une image projetée. Donc ça, c'était l'envie de départ. Et après, comme c'est un film que je voulais réaliser en fait dans le sud du Maroc, dans l'oasis en fait familiale, j'essaie de trouver une association entre le contexte désertique et cette question en fait de la lumière et de ce qu'on voit. Puis, à partir du moment où j'ai eu la validation du CNAP, j'ai mis en œuvre en fait ce qu'il fallait pour essayer de partir tourner.
Assalamu alaikum. Wa alaykoum bikhair. كان يا اشي درا جا من القبيله وقالوا لي شوف دوك الخطر راه ما بقى فيهم انا غادي نمشي واحد اربع ايام ولا خمس ايام ان شاء الله نشوف يلاه وين تشوفوا الله يعاونك.
Le tournage s'est déroulé sur à peu près une dizaine de jours. Le film était relativement écrit, mais il y a quand même sur place, essayer de faire avec le contexte pas nécessairement simple et pas nécessairement compliqué, mais voilà, on est dans une zone aride, dans des endroits qui sont quand même éloignés, donc on partait les matins en voiture avec une vieille Toyota et on allait donc tous les jours de 9h à peu près jusqu'à 17h sur le tournage. Je l'ai réalisé dans mon village d'origine, qui est dans le sud du Maroc, à côté des Rachidia. C'est une zone, donc, qui est une zone pré-désertique où il y a des problématiques d'eau qui sont quand même assez conséquentes et qui ne sont pas d'aujourd'hui et qui sont assez récurrentes depuis un certain nombre d'années. Et en fait, c'est aussi un constat que j'ai pu faire quand j'étais gamin, quand on allait avec mes parents dans ce village-là, on voyait y a des problématiques d'eau. Et c'est une question en fait, qui est restée longtemps dans ma tête. Comment on fait pour l'avoir, pour l'utiliser? De quelle manière on s'en sert? Barjem Chkouk, c'est l'histoire d'un homme qui est envoyé par le chef du village de l'Oasis pour tenter de désabler, vérifier en fait un système d'usage des eaux souterraines qui s'appelle Khtarach. Cet homme part sur son véhicule de fortune avec une ânesse pour aller dans un lieu-dit qui s'appelle Barj al-Mashqouq, où il va déposer ses affaires et il va commencer à prospecter et trouver quel puits dans lequel il va descendre pour tenter de dessabler, de remettre en état l'Artara. À partir de là, en fait, il y a plusieurs temporalités. Il y a la temporalité en fait où on le voit qui travaille sous terre, essayant de trouver des petites solutions ou des grandes solutions pour dessabler le système d'irrigation. Il va y avoir aussi des moments de vie seul ou bien avec où il va être en discussion avec lui-même, ou bien des moments où il va être avec l'ânesse. Donc tout au long du film, en fait, on va le voir dans des temporalités de travail. En règle générale, il va être sous terre, avec quelques outils, un couffin, une pioche, une pelle et une échelle. Et on va le suivre sur ce travail jusqu'à voir la finalisation de sa quête qui est le point d'orgue en fait du film. Le travail des ouvriers ou des travailleurs manuels, c'est des questions en fait qui ont depuis que je suis aux Beaux-Arts. Donc j'ai fait l'école d'art d'Aix-en-Provence, je suis sorti en 2007. J'ai beaucoup photographié les zones agraires où les ouvriers, les travailleurs plutôt maghrébins sont venus dans une région du sud-est de la France, dans le Var, des travailleurs maghrébins, algériens, tunisiens et marocains qui ont travaillé dans des zones agraires dans ces lieux-là. Puis j'ai fait un gros travail que je continue aussi de temps en temps, selon les commandes et selon les temporalités, sur le chantier de construction, en fait, avec des séries de portraits, des ouvriers, des travailleurs qui sont là-bas, avec des séries aussi d'objets, d'espaces, des outils, etc. Je suis fils de travailleur agricole, donc c'est un contexte que je connais. Et que, pendant tout un temps, les amis et les gens que je côtoyais, c'était des ouvriers agricoles. Et même après ça, j'ai eu une formation professionnelle où je devais devenir un technicien. J'ai fait un bac pro. Donc c'est un contexte que je connais relativement bien et que je trouve intéressant de porter aujourd'hui la question du travail pour des prolétaires, des sous-prolétaires, le travail manuel, je parle. Donc le personnage qui joue, c'est pas du tout un acteur, c'est mon oncle. Sur le tournage et un peu même avant le tournage, on l'a emmené vers des endroits de jeux d'acteurs en fait qui étaient aussi assez proches d'une réalité en fait. C'est pas surjoué, c'est quand même on lui indiquait des directions de travail ou des mots ou des façons de faire et lui il se mettait à jouer ou à faire ce qu'on lui demandait en fait, comme si c'était de l'acting en fait, mais tout en n'étant pas un acteur professionnel. C'est un peu comme dans Sisyphe, en fait, c'est qu'on part sur un point, il y a une entrée, une porte d'entrée, qui va être assez rude et directe, et à des moments, en fait, il y a des envolées lyriques, poétiques, et c'est pour ça, en fait, que je parle de fable cinématographique, parce qu'on n'est pas dans quelque chose de figé, et en même temps, l'idée de la fable, c'est qu'il y a une forme de conclusion à chaque fois, qui est une conclusion pas nécessairement fermée, mais qui peut s'ouvrir vers plein de possibles, sans dévoiler la scène finale. En fait, c'est ça, en fait, quand je parle de fable cinématographique, c'est la scène qu'on voit à la fin, et même d'autres moments du film, en fait. C'est pas un film minimaliste parce qu'il y a quand même le désert, il y a de la vie, même si c'est infinitésimal où on a l'impression qu'il y a peu de choses, mais quand même il y a une forme de vie. Le son, il est un peu à l'image de tout ça, c'est que c'est un film silencieux. Il y avait très peu de paroles du fait que la personne est seule en fait dans ce contexte-là. Même quand elle parle, il y a aussi toute une construction en fait, qui s'est faite autour de sa parole, parce qu'il parle à quelqu'un, mais sans qu'il y ait... Il nous parle quasi à des moments directement, mais tout en se parlant à lui-même. Donc il y a des moments en fait, où la parole est très présente, ou parfois elle est quasi inexistante pendant des longues périodes. Et on a pas mal réduit la parole pour qu'on soit peut-être juste sur le nécessaire, en fait, le strict nécessaire de ce qui pouvait être dit. C'est éviter le commentaire et le surjoué et le mal dit. C'est pour ça qu'il y a peut-être peu de paroles. C'est aussi une volonté de réduire le discours, en fait. Parler peu pour dire le plus de choses possibles. Mais après, c'est un point de vue, hein. J'imagine que si le film avait été plus long, il y aurait eu peut-être un peu plus de paroles, mais on se l'est déjà dit avec les camarades avec qui on a travaillé, c'est que c'est un film qui parle peu et la parole, elle devient précieuse en fait, comme l'eau qu'il va chercher.